Les enjeux internationaux, Mélanie Chalandon.
Bonjour Mélanie, au sommaire des enjeux aujourd'hui, le Nicaragua.
Bonjour Jacques, bonjour à tous. On s'intéresse en effet ce matin à la situation au Nicaragua où les manifestations se poursuivent contre le président au pouvoir Daniel Ortega. À l'origine de la colère populaire qui secoue le pays, une réforme des retraites qui prévoyait une hausse des cotisations et une baisse des pensions. Réforme très mal perçue par une population qui souffre déjà d'un faible niveau de vie. Et l'annonce du retrait de ce projet la semaine dernière n'aura pas suffi à calmer les manifestants. Il faut dire que la répression brutale, une quarantaine de morts et des disparus, a provoqué une grande indignation à travers le pays. Qu'ils s'en aillent tous, c'était ce qu'on pouvait entendre samedi à Managua, la capitale, lors de la dernière grande mobilisation. Alors la situation au Nicaragua, on en parle ce matin avec Maya Colombon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheure à Sciences Po Lyon, spécialiste du Nicaragua, et vous êtes avec nous par téléphone, je vous en remercie. On va commencer avec un point un peu sur la situation. Daniel Ortega, il faut le rappeler, est au pouvoir depuis 2006, mais il l'avait déjà été en poste de 85 à 90. Est-ce que c'est la première fois qu'on assiste au Nicaragua à une mobilisation, on va dire, de cette ampleur contre le président ?
Oui, incontestablement, c'est une manifestation. En fait, il y a eu un certain nombre de manifestations auparavant, un certain nombre de manifestations au cours des derniers mandats qui demandaient le départ de Daniel Ortega, mais qui étaient des très petites mobilisations. Donc, on n'a jamais vu de mobilisation de cette ampleur depuis le retour au pouvoir en 2006. Il y a vraiment une transformation et un changement de niveau de la mobilisation entre ce qui a pu se produire auparavant et ce que l'on voit depuis dizaines de jours maintenant.
Quelle était la nature des autres mobilisations qu'on avait pu constater auparavant ?
Alors il y a un certain nombre de groupes, de secteurs sociaux qui avaient commencé à manifester leur mécontentement au cours des, on va dire, deux derniers mandats. Donc il faut rappeler que effectivement Daniel Ortega est revenu au pouvoir en 2006. Il en est à son troisième mandat consécutif et depuis, on va dire, le deuxième mandat consécutif, il y a de plus en plus de mécontentement par rapport à la quantité de réformes qui se sont produites pendant ces mandats-là. Et je dirais que les deux plus importants groupes de mobilisation ont été des manifestations qui ont porté sur la construction d'un canal interocéanique. C'était essentiellement des paysans et des organisations indigènes qui se mobilisaient, et puis aussi des organisations féministes.
Comment expliquez-vous qu'on soit passé ces dernières semaines d'une mobilisation sociale qui démarrait du côté des étudiants notamment en réaction à la réforme des retraites à un appel au départ du président à ces mots d'ordre qu'ils s'en aillent tous, que Daniel Ortega quitte le pouvoir?
Alors je crois, il me semble que l'existence en fait de mobilisation contre Ortega était quelque chose de réel. Donc il y avait vraiment déjà ces mobilisations contre Ortega, mais comme je vous disais, c'était d'une ampleur qui était incomparable, si ce n'est sur les manifestations contre le canal. Et là, il s'est produit quelque chose qui était assez inattendu. La plupart des analystes sur le Nicaragua vous diront qu'en fait, personne ne penser que l'on pourrait pratiquement du jour au lendemain passer de mobilisations qui étaient des mobilisations finalement assez ponctuelles et assez limitées à une telle échelle de mobilisation, sachant que les mobilisations commencent effectivement sur cette réforme des retraites, qui est une réforme des retraites qui est déjà discutée depuis plusieurs mois au Nicaragua. L'année dernière, il y avait déjà eu des manifestations de retraités qui avaient été réprimées. Alors, à l'époque, il n'y avait pas eu de mort, mais bon, il y avait eu un certain nombre d'arrestations, etc. Et c'est à ce moment-là que les étudiants s'étaient mobilisés aux côtés des retraités. Donc, on a en fait une mobilisation qui est assez ancienne, mais qui n'avait pas du tout la même ampleur. Les mobilisations des retraités l'année dernière, c'était quelques dizaines de retraités qui étaient sur une des places principales de Managua en train de manifester avec des étudiants qui se sont organisés à ce moment-là pour les soutenir. Et donc, si vous voulez, la dimension de cette mobilisation récente n'a plus aucune mesure comparable avec celle de l'année dernière. Et ce qui va vraiment produire ce changement, c'est l'ampleur de la répression.
Une répression brutale, effectivement. On parle d'une plus de quarantaine de morts. Il y a aussi des disparus. L'ONU s'est aussi inquiétée d'exécutions sommaires. Est-ce que, voilà, selon vous, ça peut expliquer le fait que, eh bien, peut-être plus de personnes soient descendues dans la rue suite à un mouvement d'indignation, peut-être aussi de solidarité avec ceux qui ont été victimes de la répression des forces de l'ordre?
Oui, c'est incontestable que la dimension de cette répression et la visibilité de cette répression a choqué l'ensemble des Nicaraguayens qui ont considéré que c'était aller trop loin. Donc on a voilà effectivement différentes associations des droits de l'homme qui considèrent qu'il y a entre 42 morts selon le CENID et 54 selon l'association nicaraguayenne des droits de l'homme. Donc beaucoup de morts, des dizaines de disparus, des arrestations, enfin tout cela se fait dans une situation où les actes violents sont filmés, reproduits, transmis sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde voit en fait ce qui se passe, malgré le fait que la famille présidentielle ait de la maîtrise des médias, en particulier de la radio et de la télévision. Donc il y a une vraie visibilité de cette répression qui va pousser les Nicaraguayens à aller dans la rue et à se mobiliser. En plus, il faut rappeler que les premières personnes touchées par cette répression, ce sont les jeunes étudiants, des étudiants universitaires, mais aussi des lycéens. Donc on a parmi la liste des disparus et des morts pendant cette répression, des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans pour la plupart, des très très jeunes.
Très très jeunes gens. Les étudiants d'ailleurs ont demandé il y a quelques jours la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour enquêter sur les violences meurtrières. Quelles sont les chances que le pouvoir accepte la mise en place d'une telle commission?
À ce stade, elles sont assez faibles, mais la pression internationale n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, maintenant, le gouvernement est dans une situation compliquée en ce moment et il est très fragilisé par ce qui s'est passé, par le fait que à l'intérieur du pays même, la plupart des organismes qui étaient des soutiens du pouvoir en place, les uns après les autres, commencent à demander des explications, qu'il y ait une justice qui soit faite sur ces actes de répression. Et donc, le gouvernement perd de plus en plus de soutien, d'alliés, et pourrait se retrouver en situation de plus avoir le choix que d'accepter à la fois la négociation, mais aussi qu'il y ait des enquêtes.
Oui, l'Union européenne, hein, les États-Unis, le Vatican aussi, hein, ont critiqué l'emploi de la force excessive dans cette répression. Il y a une personne qui cristallise aussi la contestation au Nicaragua, c'est Rosario Murillo. Elle est la femme de Daniel Ortega, mais elle est aussi la vice-présidente depuis 2017. C'est un personnage qu'on décrit parfois comme haut en couleur, hein. C'est une artiste, une poétesse. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Rosario Murillo et ce qu'on lui reproche?
Alors oui, donc Rosario Murillo est la compagne de Daniel Ortega et sa femme mariée à l'église depuis quelques années, mais compagne de longue date, hein, depuis les années 80. Et elle a pour particularité d'être un peu la femme forte du régime. C'est la deuxième personne qui a le plus de pouvoir après Daniel Ortega. Et elle a, au cours des dernières années, donc avant même de devenir vice-présidente, joué un rôle politique majeur puisqu'elle était en charge d'organiser le parti sandiniste, donc le Front sandiniste de libération, et l'ensemble de ce qu'on appelle au Nicaragua les comités de pouvoir citoyen, qui sont des entités du parti à l'échelle locale et qui ont, au cours des derniers mandats, servi de courroie de transmission du pouvoir auprès des quartiers et des zones rurales et surtout d'espaces de contrôle. Et donc c'est à travers ces comités de pouvoir citoyen que Rosario Murillo et plus à travers elle le gouvernement Ortega a pu complètement contrôler la population, instaurer dans un certain nombre de cas une tension sur le fait d'appartenir ou pas au parti, et en fonction du fait d'appartenir ou pas au parti, on pouvait bénéficier d'un certain nombre de biens, notamment les programmes sociaux du gouvernement, et donc a, si vous voulez, cristallisé les tensions autour de ce que le gouvernement sandiniste sandiniste fait à la population de manière concrète au quotidien.
On a parlé de manifestations populaires assez spontanées, les étudiants, les retraités. Est-ce qu'il y a quand même une structure politique derrière ces mouvements? Est-ce que on voit se mobiliser l'opposition, des partis d'opposition? Et d'ailleurs, dans quel état se trouve l'opposition aujourd'hui au Nicaragua?
Alors, pour ce qui concerne les étudiants et les manifestations récentes, donc les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue à Managua ces derniers jours, je dirais que non, il n'y a pas d'organisation politique en tant que telle. Par contre, l'ensemble des organisations politiques ou des organisations sociales qui s'étaient mobilisées au cours des années dernières se sont remobilisées. Donc on voit dans les dernières manifestations, il y avait les organisations féministes qui avaient été très actives en termes de mobilisation au cours des dernières années, mais il y a aussi les organisations paysannes qui ont été très actives sur la question du canal interocéanique. Et après, il y a les partis politiques, mais qui sont dans un état assez catastrophique, dans le sens où ils ont été sapés par le pouvoir en place au cours des dernières années. Il y a eu différentes interdictions de partis qui n'ont plus pu se présenter aux élections. Ce qu'il faut voir, c'est que le Nicaragua de ces dernières années, c'est un parti totalement hégémonique, le FSLN, donc le parti sandiniste, le parti au pouvoir, qui, à travers ce que j'expliquais tout à l'heure d'organisation locale faite par cette structure dont je parlais de Rosario Murillo, va totalement écraser toute autre organisation politique qui n'a plus d'espace de vie pratiquement et survit comme elle peut, mais de manière totalement marginale.
Eh bien, merci beaucoup Maya Colombon pour vos éclairages sur la situation au Nicaragua. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheure à Sciences Po Lyon, spécialiste de l'Amérique latine, entre autres, et en particulier du Nicaragua. Demain, c'est Xavier Martinet que vous retrouverez au micro des enjeux internationaux.